Bonjour Jacques Naveau, nous allons découvrir ensemble la suite du patrimoine mayennais en feuilletant votre ouvrage paru cette année, Le patrimoine de la Mayenne, 500 sites à découvrir. Nous allons parler aujourd'hui de la région d'Evron, qui est très riche. Je rappelle que votre livre, disponible en librairie, est publié par la SAHM, Société d'archéologie et d'histoire de la Mayenne, avec le concours du Conseil général. Donc nous voici à Evron, déjà remarquable par son paysage naturel.
Oui, ce qui domine, c'est qu'à de le dire, dans cette région, bien cette chaîne de hautes collines que l'on appelle les Coëvrons, le Montaigu, le Mont Rochat, qui donne beaucoup de caractère à cette région et qui domine un bassin, le bassin d'Evron, mais aussi les hautes vallées. C'est là que commence la Jouanne, c'est là que commence l'Erve, c'est là que commence l'Aron. Donc vous voyez, il y a une série de rivières qui partent de cet ensemble. Donc c'est une région belle d'abord, et puis c'est une région qui a un patrimoine extrêmement riche. Ça va être difficile d'en parler parce qu'il faut vraiment faire des coupes sombres, il faut faire des choix. Alors bien sûr je ne peux pas ne pas parler du patrimoine antique, c'est une des caractéristiques de cette zone-là, Jublain bien entendu.
L'incontournable
Jublain. Mais enfin c'est vrai que Jublain est d'une importance qui dépasse largement les frontières du département.
Oui.
Ville romaine avec tout ce qu'il faut pour illustrer une ville romaine, un temple, des thermes, un théâtre, et en prime, un bâtiment qui, lui, est beaucoup plus rare, la forteresse de Jublain, quelque chose qu'on voit pas partout et qui, d'ailleurs, nous pose de gros problèmes d'interprétation. Est-ce que c'était une forteresse militaire? Est-ce que c'était plutôt une espèce de relais fortifié pour des impôts, pour des biens divers? Est-ce que ça a été l'un puis l'autre, d'abord un relais fortifié, puis ensuite une vraie forteresse militaire? On en discute encore, c'est pas simple comme problème. En tout cas, le site mérite vraiment d'être vu. Oui. C'est le site du musée archéologique départemental, donc on y trouve toute la documentation sur l'ensemble de l'Antiquité en Mayenne. Jublain n'est pas le seul ensemble antique important dans cette zone, puisqu'il y a aussi un autre monument à ne pas oublier, le Rubricaire. Encore une forteresse romaine dans l'ouest de la France où il n'y a pratiquement pas de forteresse romaine. On en a deux côte à côte, dont celle de Rubricaire sur la commune de Saint-James-le-Robert. C'est sur la route allant de Saint-James-à-Bay, un site qui est en plein air, ouvert au public librement. Il y a un parking à côté, c'est facile d'aller le voir. Et ce qui ne gâte rien, on a depuis le Rubricaire ce que je pense être le plus beau panorama de toute la Mayenne. On est là sur les pentes du Mont Rochard, il faut y aller au printemps. Et le paysage est absolument superbe. On voit sur, j'ai calculé, une quarantaine de kilomètres, c'est jusqu'à la région de Laval. C'est absolument magnifique. Cette forteresse, elle aussi, est assez énigmatique. On pense que c'est une forteresse du Bas-Empire, c'est-à-dire peut-être du IVe siècle. Une forteresse carrée avec des tours d'angle pour une garnison qui, en tout cas, était bien placée sur ses hauteurs pour surveiller un vaste territoire. Dans une période qui commençait à être une période extrêmement troublée. Hein, celle du Bas-Empire.
Et ensuite, évidemment, on arrive à Evron et tout son ensemble, hein, parce que c'est pour vous, c'est l'édifice majeur un peu du département, la basilique.
C'est peut-être subjectif, je ne sais pas. Pour moi, c'est le plus bel édifice religieux de la Mayenne, sans l'ombre d'un doute. Enfin, il y en a d'autres qui ont des qualités, mais l'église d'Evron est quand même particulièrement intéressante. C'est un site qui a une origine ancienne. Il y a des stèles gauloises à Evron qu'on peut voir au pied même de l'abbatiale et également à l'entrée de la mairie. On a trouvé une monnaie romaine quand on a fouillé l'église d'Evron dans les années 1980. On sait d'autre part qu'un monastère y a été édifié dès l'époque mérovingienne. Il est mentionné en 642. Il a été détruit au 9e siècle, mais il fait partie de ces rares monastères qui ont rebondi en quelque sorte, qui ont été restaurés. Il l'a été vers 980. Semble-t-il par un vicomte de Blois voulait pousser son influence dans cette région et qui a donc contribué à la restauration du monastère. Et alors on s'est mis au travail immédiatement pour l'édification d'un édifice que l'on peut considérer comme une des premières grandes églises romanes de France. C'est vraiment une des toutes premières grandes églises romanes. Ah oui, ça a été conçu comme une église de pèlerinage, donc avec un plan extrêmement vaste. On a commencé par la construction de la crypte à la fin du Xe siècle, mais un architecte qui a travaillé sur ce bâtiment a montré facilement que le rythme des supports de la crypte, on le retrouve jusque dans la basse-nef. Donc tout a été conçu d'un seul tenant. Mmh. La basse-nef est conservée avec un bas-côté, donc elle date, elle, du tout début du XIe siècle. On est encore une fois à l'aube vraiment de l'art roman. Et puis l'édifice, comme tous ces édifices, a continué à vivre. On lui a ajouté un porche au XIIe siècle, dont on voit quelques traces. Quand on entre à droite dans l'église, on voit des petites arcades, on ne sait pas trop ce que c'est. En fait, c'est les traces d'un porche qui était en avancée. Du XIIe siècle date également la fameuse chapelle Saint-Crépin, qui est accolée à l'église. On ne sait pas trop pourquoi elle a été construite. On sait en tout cas qu'elle date des années 1150-1170. Et puis alors, l'époque gothique a laissé là un grand témoignage de son art, car les moines d'Évron ont décidé de reconstruire leur église. Traditionnellement, on la date du XIVe siècle. Or, en réalité, il semble qu'elle soit plus ancienne que ça. Les recherches récentes, les dernières études qui ont été faites sur cette église tentent à dire qu'elle date plutôt de la seconde moitié du XIIIe siècle, voire même du milieu du XIIIe siècle. En tout cas, elle a été commencée, parce que une église d'une telle importance, il fallait longtemps pour la faire. Oui. Et d'ailleurs, celle d'Évron n'a jamais été terminée. L'intention des constructeurs gothiques est évidemment de tout reconstruire, et puis en fait, ils se sont arrêtés à mi-chemin, ce qui nous permet d'avoir une moitié romane et une moitié gothique. Mm. Mais ça, c'est l'interruption des travaux, sans doute à l'époque de la guerre de Cent Ans, qui fait qu'une partie de l'édifice roman a survécu. Cette église gothique, en tout cas, était certainement déjà bien avancée à la fin du XIIIe siècle, puisque c'est l'époque où on lui a mis des vitraux. Les vitraux d'Évron sont datés par les spécialistes, pour les plus anciens d'entre eux, autour de 1300, et pour les plus récents, autour de 1320. Ah oui. Des vitraux qui nous racontent tout un tas de choses, dont la fameuse légende du pèlerin, légende
de Notre-Dame de l'Épine.
Voilà, c'est ça, d'un pèlerin qui, revenant avec une relique de la Vierge, avait accroché un soir sa relique à une épine pour pouvoir dormir, et le lendemain a eu la surprise de voir que l'épine avait grandi considérablement et qu'il ne pouvait plus la récupérer. L'évêque du Mans a interprété la chose en disant, bien c'est donc que cette relique veut rester sur place et on va donc lui construire un monastère. C'est comme ça qu'au Moyen-Âge, on racontait l'origine de cette église. D'ailleurs, il y a une autre légende aussi que l'on voit représentée dans l'église d'Évron, dans la partie gothique, sous la forme d'une sculpture. Ouais, dans le déambulatoire, il y a une sculpture qui représente la légende du pèlerin, et puis à côté, une chose bizarre, un chevalier sur sur son cheval, et tous les deux tournent la tête vers le spectateur. Alors ça, ça fait référence à une légende qu'on appelle celle du torticolis, selon laquelle un seigneur de Laval, pillard, était venu à Évron piller l'abbaye, et en repartant sur le chemin de Laval, il s'est retourné d'un air conquérant et fier vers l'église, et il a été pris d'un torticolis. Et il a compris que s'il voulait guérir de son torticolis, il n'y avait plus qu'une seule chose à faire, c'était aller rendre tout ce qu'il avait volé, ce qu'il a dû faire. Il subsiste encore actuellement à Châtres-la-Forêt une chapelle du torticolis, qui est une chapelle ancienne sur le vieux chemin médiéval qu'on voit très bien dans le paysage, on roule dessus même, qui est l'ancien chemin de Laval à Évron, qui d'ailleurs à cet endroit-là est en réalité une ancienne voie romaine, c'est même encore plus vieux que ça. Et donc la chapelle du torticolis est toujours là, on peut la voir à Châtres-la-Forêt. Alors je reviens à Évron, l'abbatiale donc a été partiellement construite à époque gothique. En ce qui concerne le monastère, eh bien il y a des parties médiévales dedans, essentiellement un ancien logis abbatial du 15e ou du tout début du 16e siècle. Et puis on a ensuite entamé la construction d'un nouveau logis au XVIIIe siècle,
qui est magnifique. Hein.
Qui est magnifique entre 1726 et 1744, magnifique, mais pas dû à n'importe qui. Ça a été construit par un architecte bénédictin de haut niveau, Guillaume de la Tremblay, qui est également l'auteur du logis abbatial de l'abbaye aux Hommes à Caen. Mmh. Bon, voilà, donc vous voyez, Évron, très riche, on pourrait également évoquer les remparts qui ont été édifiés autour de l'église et qui ont été restaurés et refaits à l'occasion des guerres de religion en 1577, donc tout un ensemble vraiment très très important et incontournable en Mayenne.
Et autour d'Évron, il y a aussi un patrimoine religieux du Moyen Âge qui est intéressant.
Absolument, il y a Évron semble tout écrasé, mais en réalité non. Il y a des édifices qui méritent véritablement la visite. Alors je vais pas tous les mentionner, on s'en sortirait pas. Donc je fais des choix, des choix personnels. Par exemple, le choix de l'église de Montourtier. Montourtier, tout petit édifice, mais vraiment passionnant parce que voilà un édifice très caractéristique de la Mayenne. Une nef romane du XIe siècle, un chœur du XIIIe siècle avec des fenêtres dont on voit encore très bien les traces d'une certaine qualité. Et puis ensuite, des chapelles ont été ajoutées, une chapelle en 1528. Un siècle plus tard, on a fait la chapelle de l'autre côté, du côté nord. Et enfin, pour orner tout ça, des retables de René Trouillard, un architecte retablier de Château-Gontier, mais qui était très influencé par les Lavallois et qui travaillait au milieu du XVIIe siècle. Donc Montourtier est une église que je conseille d'aller voir. Un autre édifice religieux que j'ai choisi parce que à cause de sa rareté, c'est le Montaigu, l'ermitage du Montaigu. Un ermitage, c'est assez curieux, mais au début du XVe siècle, en 1402, un personnage appelé Jean Cochon a demandé au seigneur de Cholet, qui était propriétaire de la butte de Montaigu, l'autorisation de s'y installer pour créer un ermitage. Et donc il a eu cette autorisation. Et cet ermitage, on le voit encore, on en voit les ruines, et surtout, on voit la chapelle, qui, elle, est très bien conservée, qui est un très bel édifice, début 15e, bien caractéristique, édifice de granit. Alors, cet ermitage a attiré un pèlerinage, au moment le 29 septembre, pour la Saint-Michel, et une foire également se tenait à proximité de la chapelle.
De là-haut aussi, on a une très belle vue sur la Mayenne.
Ah, de là-haut magnifique. Aussi, on a une très très belle vue. Parfois, les arbres les cachent un peu, mais je pense qu'il y a actuellement une gestion du paysage qui est en train de se faire justement au Montaigu pour essayer de corriger cela et permettre qu'on conserve des perspectives. Alors le patrimoine, c'est pas uniquement l'architecture, c'est aussi l'art, la peinture et l'art décoratif. On ne peut pas passer à côté de nos, par exemple, très bel ensemble de peintures murales qui a été réalisé peu après 1250 et qui raconte l'histoire de Saint Vigor, le saint patron de cette église priorale de Nau. C'est un ensemble intéressant, ne serait-ce que par son état de conservation, ses couleurs qui sont tout à fait remarquables. Un autre ensemble un petit peu plus tardif est celui de Saint-Martin-de-Connée, où l'on peut voir toute une série de peintures qui ont été réalisées à la fin du 15e, début 16e, et qui s'inspirent de la légende dorée, la fameuse légende dorée de Jacques de Voragine, qui raconte l'histoire des saints. Alors on voit Saint-Christophe, on voit Saint-Michel, on est sur le bord du chemin montais, du Mont-Saint-Michel, donc c'est pas par hasard. Hein. On voit Sainte-Marguerite, Saint-Georges, et un très beau lambris, surtout peint, datant de la fin du XVe siècle et racontant l'histoire de Sainte-Barbe.
Ah oui, Sainte-Barbe.
Un bel ensemble à aller visiter.
Nous allons faire une pause musicale, nous allons revenir dans la région d'Évron. Vous êtes sur Fidélité Mayenne, nous recevons pour notre émission Histoire et Patrimoine Jacques Naveau, qui nous fait découvrir aujourd'hui les richesses du patrimoine de la région de Évron. Alors, est-ce que nous allons passer au château et au manoir maintenant ?
Oui, alors, c'est tellement riche qu'il là aussi, il faut vraiment choisir. Donc, je vais passer assez vite sur les manoirs de la fin du Moyen-Âge, les petits manoirs. Je ne peut pas ne pas mentionner tout de même la grande courbe de Bray, ne serait-ce qu'à cause de l'effort tout à fait remarquable des propriétaires de ce château qui, depuis des années et des années, le restaure, mais en même temps l'étudie. Ils ne font pas n'importe quoi, ils font un travail extrêmement sérieux de documentation qui se traduit ensuite par des travaux de restauration, travail de très longue haleine, mais pour un ensemble qui le mérite, parce que on a à la grande courbe de Bray une espèce de panorama de ce qu'était un habitat noble depuis le XIIIe siècle jusqu'au XVIe siècle. Chaque siècle a ajouté un bâtiment dans ce beau petit ensemble. Mmh. Il y en a d'autres, il y a la grande Coudrière à Mésangers, oui, une maison forte du XIVe siècle, il y a le château de Chelet à Ambert avec des constructions qui débutent au XIIe siècle et surtout un logis en ruine du XIIIe siècle. Il y a le château de Coursorier, enfin bon, il y a tout un tas d'éléments conservés, et puis les manoirs de la fin du Moyen-Âge sur le modèle de celui de Pierre Fontaine à Saint-James-le-Robert. Alors, tout de même, il vaut mieux garder un peu plus de temps pour parler d'une période qui est spécialement bien présentée dans cette région d'Evron, qui est la Renaissance. Si j'ose dire, plutôt les Renaissances. Il y a deux Renaissances. Une première Renaissance qui est l'arrivée du style italien dans la première moitié du XVIe siècle et qui, là, est représentée, bien sûr, par le fameux château du Rocher à Mésangers, qui est une pure merveille, certainement l'un des plus beaux châteaux de la Mayenne. Le château du Rocher a comme élément ancien un logis du XVe siècle, une chapelle, et puis alors surtout ces deux éléments ont été reliés l'un à l'autre vers 1535 par une extraordinaire galerie en granit, mais en granit extrêmement ouvragé. C'était absolument une merveille artistique. Il y a d'autres châteaux intéressants dans cette région, le château de Bourgon bien sûr à Montourtier, dont les propriétaires font un gros effort pour l'entretenir et pour l'ouvrir au public. Et puis il y a aussi la première Renaissance se traduit également dans l'architecture religieuse ou dans l'art religieux, et notamment à Ambert, dans l'église d'Ambert, où une chapelle a été construite en 1528. Et le plus intéressant, c'est pas la chapelle, mais c'est surtout le retable qui est dedans. Est vraiment l'un des plus anciens retables mayennais, et qui est tout à fait caractéristique de cette première Renaissance, avec une structure qui s'inspire des arcs de triomphe antiques. De même, à Bray, la petite chapelle qu'on appelle Sainte-Croix, à Bray, est également un édifice Renaissance, mais qui, lui, nous introduit sur la deuxième partie de la Renaissance. Elle a été construite en 1575. Et cette seconde Renaissance marque une évolution dans le style vers quelque chose qui se libère un peu de l'influence italienne et vers la création d'un style plus propre à la France. Alors, comme édifice majeur, eh bien, je citerai à Bay l'église de Bay.
Qui a aussi
il y a des parties tout à fait médiévales, il y a des peintures, comme vous le dites, qui datent du XVIe siècle, un transept qui est du XVIe siècle, mais la partie la plus originale, c'est la nef. Une nef avec une série d'arcades de chaque côté, des arcades à chapiteaux en forme de lion. Alors, les gens qui entrent là-dedans se disent, tiens, mais on est dans un édifice roman. Bah, pas du tout. D'ailleurs, il suffit de regarder, il y a une date sur un pilier, 1612, et c'est effectivement la date de réalisation de ce décor qui est, vous voyez, à la charnière 16e, 17e siècle. C'est pas très surprenant, mais en tout cas, l'église de Bay est certainement la plus évoluée, en quelque sorte, dans cet art-là qui marque la fin de la Renaissance, l'extrême fin de la Renaissance dans nos régions. Au niveau des châteaux, pensons au château de Montesson à Bay également, dont les défenses ont été refaites en 1586, et le châtelet d'entrée date de cette époque-là, ou bien le grand château de Monteclerc à Châtres-la-Forêt, lui aussi très caractéristique de cette seconde Renaissance, avec un aspect assez sévère qui est qui est propre à cette seconde Renaissance, où on insiste beaucoup sur la valeur architecturale, sur la puissance architecturale plus que sur le décor.
Et ensuite, est-ce qu'on va évoquer un patrimoine que vous appelez le petit patrimoine ?
Eh bien, ça serait intéressant, parce que le petit patrimoine, on en parle peu souvent. Or, dans la région d'Evron, il y a une foultitude, si j'ose dire, de choses qui méritent d'être signalées. Le petit patrimoine, c'est par exemple le patrimoine des chapelles, et dont certaines sont très anciennes. La chapelle de Champfleury, sur la commune de Saint-James-le-Robert, à côté d'une ferme, est une chapelle du XIIe siècle. Et il y avait un ermitage à cet endroit-là. De même, sans doute, d'ailleurs, sur la même commune, la chapelle de Rheims. À Jublin, la chapelle de Doucet, où une association a fait un magnifique travail de restauration ces derniers temps, là, eh bien, cette chapelle, 14e, 15e siècle, est un édifice de véritablement de qualité. Plus récent, une chapelle, un sanctuaire rural, c'est la fameuse chapelle du Chêne à Saint-Martin-de-Connée, dont le point de départ est une vierge dans un chêne, comme il y en a d'autres en Mayenne. Et puis un premier bâtiment a été construit au XVIIe. La chapelle actuelle date du XIXe. Elle a été faite entre 1870 et 1899. Mais ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'on a conservé le chêne et qu'on a construit la chapelle autour du chêne que l'on peut voir toujours. Alors, il est mort évidemment, le chêne, mais il est toujours là et il fait l'objet de dévotions qui se mesurent au grand nombre d'ex-voto accrochés à la fois sur le chêne et dans l'ensemble de l'édifice.
On peut, d'ailleurs, si vous me permettez, j'ai découvert dans cette grande chapelle, parce qu'elle est grande, un vitrail immense, magnifique, qui est au-dessus du portail d'entrée, donc il faut se retourner dans la nef pour regarder. C'est un très beau vitrail à l'aume sur l'apparition de Pontmain.
Oui.
Et qui est spécialement étonnant.
Spécialement intéressant.
Ah oui, oui, magnifique.
Et il y a aussi des peintures, d'ailleurs, dans cette chapelle qui racontent la légende. La légende. De l'origine de ce pèlerinage. De ce pèlerinage. Alors, dans le petit patrimoine, je compte également les croix. Il y a tout un tas. Et il y a eu une véritable école, ou en tout cas un artisan qui a remporté un grand succès au XVIIe siècle dans la région d'Evron, ou plutôt dans la région de Saint-James-le-Robert. Le point de départ, c'est Saint-James-le-Robert. Ce type de croix est caractéristique par le fait que ce sont des croix dont le fût est très haut, à section octogonale, avec un croisillon très court, et puis surtout un cercle sous le croisillon. Un cercle qui souvent lui-même est orné d'une autre croix. Il peut y avoir différentes choses, mais en tout cas, c'est très typique du style de cette région-là. Ces croix à cercle, à médaillon, sous le croisillon. Alors on en voit la plus caractéristique est tout simplement dans le cimetière de Saint-James, mais il y en a d'autres, notamment celle de la Bourdonnière, qui est à proximité de la chapelle de Champfleury, dont je vous parlais tout à l'heure, et d'où on a un très beau panorama, parce qu'on est déjà là, sur les hauteurs des Coëvrons. Et puis, je veux quand même insister un peu plus sur une croix du 19e, parce que 19e, c'est toujours un peu l'enfant pauvre, si qu'on oublie de mentionner, dans le cimetière de Baie. Allez voir la croix du cimetière de Baie, c'est une croix néo-gothique, mais, si j'ose dire, malgré cela, originale. Bon, néo-gothique, c'est un style où on emprunte au passé, et néanmoins, elle est extrêmement bien composée, elle a une grande qualité ornementale, avec une représentation de la résurrection des morts, on est dans un cimetière, bien sûr, un fût très ouvragé qui mérite d'être vu. Petit patrimoine, c'est les lavoirs. À Baie, on parle de Baie, bien, il y a des lavoirs qui ont été restaurés récemment à Baie, à Grazel, lavoir de la Mère Dieu. Alors, vous avez une série, beaucoup de lavoirs qui sont des lavoirs de charpente. L'essentiel des lavoirs sont construits en bois, sont construits en charpente. Mais je vous en signale un qui, lui, est construit entièrement en maçonnerie. C'est le lavoir de Gênes, qui date de 1850, qui a une curieuse histoire. Il est construit sur une route menant au village de Gênes, au bourg de Gênes, une route en pente. Et en réalité, le lavoir ancien était pas exactement à cet endroit-là, mais ce lavoir est devenu inutilisable à cause d'un four à chaud qui s'est installé à proximité, ou plus exactement de la carrière, parce que en creusant la carrière, on a asséché le lavoir. Et donc le propriétaire de la carrière, a payé de ses propres sous la construction d'un lavoir nouveau à un endroit où il y avait de l'eau, enfin où on pouvait faire arriver l'eau. Et ça nouveau, cet ouvrage maçonné qui est de belle qualité, c'est un tout petit ouvrage comme ça, et qui mérite d'être vu. Et puis enfin, je termine tout simplement avec les maisons anciennes. Alors là, il y en a un peu partout. Prenons au hasard, si vous voulez, le bourg de Mésanger, où on a un très bel ensemble de maisons de la fin du Moyen-Âge et du début XVIe siècle, notamment quand on va vers le château du Rocher, on en voit là à droite, qui sont très caractéristiques de cette période fin Moyen-Âge.
Et est-ce qu'on peut remarquer des choses au niveau du patrimoine industriel? Alors,
patrimoine industriel, il y a des forges, puisque c'est une spécialité mayennaise, le travail du fer à l'époque qu'on appelle l'époque moderne, 17e, 18e. Les forges d'Hermet à Jublin ont été créées en 1529, et puis elles ont